Vous écoutez
RMC. RMC, midi 15h. Estelle Midi.
Estelle Denis.
Bonjour à tous, soyez les bienvenus sur RMC à la radio, RMC Story, canal 23 de la TNT. On est ravis de démarrer cette nouvelle semaine avec vous dans Estelle Midi, avec aujourd'hui autour de la table Rémi Barré. Bonjour Rémi.
Bonjour Estelle, bonjour à tous.
Le journaliste de Marianne Perico-Légas qui est là comme chaque lundi. Salut Perico.
J'ai pas fait grève aujourd'hui, on est présent.
De toute façon, vous faites jamais grève. Donc
oui, c'est vrai.
On est avec notre économiste Pierre Rondeau. Salut Pierre.
Salut Estelle, salut à toutes et à tous.
Et puis notre autre homme du lundi, Jérôme Lavrieux, désormais propriétaire de Gîte. Salut Jérôme.
Bonjour.
Au sommaire, aujourd'hui dans Estelle Midi, la nouvelle mobilisation autour de la réforme des retraites. Demain, des perturbations à prévoir. Clément Beaune, le ministre des Transports, réfléchit à encadrer le droit de grève. Pour ou contre, on vous attend au 32-16. À midi et demi, on parlera de la journée internationale sans téléphone. C'est aujourd'hui. Seriez-vous capable de vous passer de votre smartphone pendant 24 heures? Réagissez bien sûr sur l'application RMC. À 13h, la Belgique qui envisage de faire payer les excès de vitesse en fonction des revenus. Plus t'es riche, plus tu payes. Bonne ou mauvaise idée. À 13h30, ce sera le meilleur du jour sur RMC, le zapping. 13h45, la minute conso avec Gaëtan Mélin, chef du service éco de BFM. On parlera du changement, en fait, du mode de consommation chez les Français. Gaëtan nous dira tout ça à 13h45. À 14h, une augmentation inquiétante des rats dans toute la France, des poubelles qui débordent. Sommes-nous devenus de plus en plus sales? Et puis, on vous fait gagner un fantastique cadeau aujourd'hui sur RMC, Rémi.
RMC vous offre vos places pour les meilleurs matchs de foot ce mercredi, le choc OM-PSG en Coupe de France. Vous restez bien à l'écoute d'RMC toute la journée et dès que vous entendez ça, vous aurez alors 5 minutes pour vous inscrire en envoyant foot par SMS au 732-16. Foot par SMS au 732-16. Restez bien à l'écoute, ça peut tomber à n'importe quel moment.
RMC Estelle Midi.
Midi 6 sur RMC et on va démarrer Estelle Midi avec l'actualité du jour. C'est bien sûr la nouvelle journée de mobilisation contre la réforme des retraites qui aura lieu demain. On attend de nombreuses perturbations dans les transports. Et pour minimiser les désagréments des usagers des transports, justement, le ministre Clément Beaune s'est déclaré en faveur d'un encadrement du droit de grève. Écoutez.
Par le dialogue social, on peut aussi imaginer, c'est ce que font certains de nos voisins européens, mais j'insiste, par un accord préalable, avoir des périodes qui sont préservées. Il y a des mobilisations sociales face à la réforme des retraites, c'est notre démocratie, c'est le droit de chacune et de chacun, et des organisations syndicales, je le respecte, mais dans le choix qu'on fait des périodes, je crois qu'il faut du respect de la responsabilité pour éviter des perturbations qui seraient excessives et qui perturberaient beaucoup de familles qui se retrouvent et qui n'ont parfois pas pu se retrouver à Noël. Donc il faut vraiment qu'il y ait de la responsabilité, du respect dans le choix et l'organisation des mobilisations.
Alors, si on encadrait le droit de grève en France, Rémi, ça ressemblerait à quoi?
On vient de l'entendre, Clément Beaune lance plusieurs pistes. D'abord, en ce qui concerne les délais des préavis de grève. Depuis 2007 et la loi sur le service minimum voulue par Nicolas Sarkozy, les professions qui y sont soumises, comme les cheminots, par exemple, doivent se déclarer grévistes au moins 48 heures à l'avance, ce qui permet à la direction de leur entreprise de s'organiser pour limiter au maximum les perturbations. Le ministre des Transports émet donc l'idée d'un délai prolongé d'une déclaration de grève de 72 heures, par exemple, à l'avance, pour permettre toujours à la SNCF ou à la RATP, hein, par exemple, de s'organiser au mieux. Autre piste, le recours accru aux volontaires pour remplacer les grévistes. Le dispositif, il existe déjà avec les cadres de la RATP ou de la SNCF qui peuvent prendre la place de conducteurs ou chefs de bord lorsqu'ils sont habilités. Mais Clément Beaune estime qu'on peut encore améliorer les choses, donc permettre à davantage de personnel, quand ils le peuvent, de remplacer des grévistes. Et puis, dernière idée, interdire les grèves dans les transports à certaines périodes, les jours fériés et lors des départs en vacances, comme cela se fait notamment en Italie, une mesure qui va dans le sens d'un projet de loi, en tout cas d'une proposition de loi, déposée par Véronique Besse, députée non inscrite de Vendée.
Alors, faut-il encadrer le droit de grève? C'est la question qu'on vous pose et que je vous pose, Perico Légas.
On commence à être entraîné à la réponse. Ça fait quand même 20 ans qu'on en discute.
Mais là, c'est concret.
Oui, mais sauf que c'est un droit. C'est un droit constitutionnel. Donc, le mot interdire ne peut pas. C'est aménager, réguler. Et attention, il y aura des contraintes. Là, ce que je regrette, c'est des jeunes, ils sont un petit peu nuls dans ce gouvernement. D'ailleurs, le président de la République dit lui-même, d'ailleurs, qu'il est assez déçu par cette composition. On dit pas ça en plein conflit. On dit ça après.
Non, c'est pas très malin, non. Il y a un petit problème de timing.
Sauf quand on est à droite, c'est un petit peu borné, ou à gauche, un petit peu serré. voyez, parce qu'évidemment, le gouvernement en place est toujours irrité par la grève qui est contre lui. Puis quand ces gens-là sont dans l'opposition et que la grève ne les concerne pas, ils sont les premiers. Ah non, droit de grève, on n'y touche pas. Puis quand ça les emmerde, donc il peut attendre un petit peu plus tard. On sait qu'il y a des limites à la réglementation du droit de grève. Oui, les vacances, les gens, ben voilà, on est tous d'accord. Alors, on a la grève, on n'a pas la grève. Voilà. La réglementer, je crois que Sarkozy a fait à peu près le maximum de ce qu'on pouvait faire.
72 heures, c'est pas mal. Ça permet quand même de te retourner. Et puis si t'as un TGV, un avion. Bon.
Non, oui, mais. Et puis un jour, ça sera une semaine, 8 jours avant, puis voir l'année d'avant, pendant qu'on y est. Mais oui, c'est quoi la limite? C'est un droit, c'est un droit. Alors, il faut faire en sorte, en concertation avec les syndicats, qu'il puisse y avoir une situation qui ne pourrisse pas la vie des usagers, des gens, et puis les volontaires, peut-être effectivement, si ceux qui veulent travailler pendant la grève, auquel cas il y aura des piquets, il peut y avoir aussi à ce moment-là des confrontations. Voilà, si on contourne systématiquement les grévistes.
Enfin, si c'est les volontaires, c'est-à-dire qu'en fait, ils vont déserter leur boulot pour en faire un autre, donc de toute façon,
ça va y avoir
compliqué, je vois pas l'intérêt.
Si la grève est entravée de cette façon, ça se passera de façon violente. Voilà. Oui. Donc, Donc, il faut réglementer un peu plus et un peu mieux, mais pas dans les proportions que Clément Beaune a indiquées.
Le moment est mal choisi quand même,
Pierre Rondeau, c'est quand même
hallucinant, quoi.
On est sur la tentative d'un dialogue social pour trouver des pistes d'amendement, d'amélioration du projet de réforme, et plutôt que d'aller dans le sens du dialogue avec les syndicats et les corps intermédiaires, on est là à vouloir le réglementer, l'encadrer, voire le limiter. Donc on est vraiment en termes de communication politique sur une grosse erreur. Après, sur la question de l'encadrement, on peut en discuter effectivement. Alors moi personnellement, j'y suis opposé parce que ça reste un outil, un instrument de lutte sociale. Mais si on prend les pays européens, notamment l'Italie encadre le droit de grève et interdit notamment les grèves le week-end et les jours de vacances.
Mais quasiment tout l'été.
Et quasiment tout l'été. À la seule différence, et là-dessus on peut très bien l'accepter et l'admettre, mais la seule différence c'est qu'en Italie le taux de syndicalisation il est de plus de 35%.
Et bah oui,
il est supérieur à la moyenne européenne.
Donc c'est légitime.
En France, le fait qu'on soit à 8% de taux de syndicalisation fait qu'au final le seul instrument qu'ont les syndicats pour se faire entendre, c'est de passer par la grève. Si on passait par un véritable dialogue, par une véritable représentation, par une inversion de la hiérarchie des normes avec des négociations par branche, par secteur, directement entre les élus syndicaux et la direction, pourquoi pas? Mais aujourd'hui, vouloir le faire en France, avec un taux de syndicalisation si faible, ça va à l'encontre du dialogue, puisque le seul outil qu'ont les syndicats, c'est la grève. Si on fait comme en Italie, il faut aussi tirer vers plus de syndicalisation et plus de pouvoir pour le corps syndical.
Ça se décrète pas.
Est-ce qu'il faut sanctuariser certaines dates comme Noël ou les départs en vacances, par exemple pour vous, Jérôme Lavrieux?
Dans les faits, elles sont sanctuarisées.
Ah bon?
J'ai vécu quand même un 24 décembre.
C'est plutôt l'inverse. Dans les faits, tous les Français savent qu'à l'approche des vacances de Noël, on en a discuté en décembre, à l'approche des vacances de février, à l'approche des vacances de mars et des jours de grand départ de juillet et août, on a toujours un risque de grève qui nous pend au nez. D'ailleurs, à chaque fois.
Bah, qu'est-ce qu'on fait en partant en vacances?
C'est une sanctuarisation inversée.
Non, ça pose des problèmes. Mes gîtes, cette semaine, il n'y a personne. La semaine prochaine, c'est plein.
À cause des grèves?
Mais parce qu'il y a un mouvement.
C'est mardi.
Il y a un mouvement mardi et il y a des journées de manifestation avec des possibilités de débrayage dans les transports en commun samedi.
Bah, les gens arrêtent.
Et donc les gens, moi, j'ai rien. Les gens arriveront lundi. Mais c'est pas grave.
Parce que c'est pas très suivi, là, quand même.
Mais sur le fond, oui, mais c'est l'incertitude qui crée le problème. C'est pas, je sais que j'ai pas de train, donc je m'arrange autrement. Je suis pas sûr d'avoir mon train. D'accord. C'est ça qui pose un problème. Et moi, si on revient à la question du départ, est-ce que Clément Beaune a raison? Et moi, je trouve que, en fait, c'est le seul moment où il en parle. Et on parle pas de compliquer le droit de grève entre deux grèves quand tout va bien. En fait, il s'adresse pas aux grévistes, il s'adresse en faisant ça, il fait de la com, en s'adressant aux gens qui vont être pénalisés. Oui. C'est pour ça que c'est
mais
pour
il y en a de moins en moins qui vont être pénalisés, donc c'est un mauvais calcul.
Le seul bon moment pour en parler, c'est-à-dire en parler toujours, ne le faire jamais. Mais non, on ne le fera pas, on ne le modifiera pas. Puis moi, je m'en remets à ce qu'avait dit un jour Nicolas Sarkozy dans une conférence de presse en disant, mais maintenant, quand on est en grève en France, on ne s'en rend plus compte. Je parle sous le contrôle de
Rémi. Oui, c'est ce qu'il avait dit.
Ouais, c'est ce qu'il avait dit. Mais en fait, on confond deux choses. C'est encadrer le droit de grève, qui ne se fera jamais. Je suis contre l'encadrer plus durement qu'il ne l'est. C'est un droit constitutionnel. Même quand ça m'emmerde, même quand ça gêne, je reconnais aux autres la possibilité de le faire avec la mise en place d'un service minimum, notamment dans les transports. C'est ça sur lequel il faut travailler.
Ce qui est déjà le cas dans la plupart des transports.
À la RATP, par exemple, vous avez plein de lignes où je vois ma ligne, par exemple. Demain, en fait, tu peux prendre le métro. Il y a un train sur deux, un train sur trois, de 6h30 à 9h30 et de 16h30 à 19h30. Alors
guillemets, Estelle.
Oui, on va être serré dans la rame, mais au moins on peut aller au boulot.
C'est le service minimum.
Non, c'est pas le service minimum. Non, parce que le service minimum, il n'existe pas à la RATP. C'est qu'on prend les non-grévistes et on les affecte aux créneaux les plus fréquentés. Mais
ça te permet d'aller bosser.
S'il y a 90% de grève,
bah, tu pourras pas.
Il y aura 10% des trains.
Mais ils ont trouvé
quoi?
Mais
ils ont trouvé quoi? Mais ils ont trouvé un service minimum de
la RATP est en train
de. Pas tous en même temps.
Mais ça existe dans la santé, cher ami.
Dans la santé, c'est.
Ça existe chez les
pompiers. C'est compréhensible.
Mais c'est compréhensible. Les chirurgiens qui disent non, je ne vais pas prendre cette opération du cœur.
C'est compréhensible. Il y a quand même des secteurs où là, on va accorder ce droit-là. Si on impose un service minimum à des grévistes, ça veut dire que oui, t'es gréviste, mais tu as l'obligation de venir deux heures travailler.
Mais la RATP va trouver la réponse, mes amis.
Pas tous en même temps.
Mais il y a zéro transport en dehors de ces heures-là.
Non, non, mais on va tout simplement automatiser les lignes. Il y en a de plus en plus. Et la 4, voilà, c'est automatisé. Il
n'y
a plus de
grévistes. La 14.
Ben voilà, terminé. Donc faut dégager. Les grévistes, ils vont, tout ce qu'ils vont faire, c'est détruire les emplois. À force de tirer sur la ficelle.
Ça, c'est sûr, c'est la conséquence. Voilà. Et c'est assumé par la RATP. Hein.
Alors,
ah bah elle est ravie. On va automatiser. Elle est ravie, elle. Elle est ravie, c'est des salaires en moins.
Ça, on a moins d'employés, on a moins de grèves.
Voilà.
J'ai jamais vu autant de contrôleurs RATP d'ailleurs dans les couloirs du métro. C'est assez dingue.
Du coup, ils ont le temps pour faire autre chose. Voilà.
Bon, on est avec Axel Persson. Il est secrétaire général de la CGT Cheminots à Trappes. Bonjour, Axel. Axel, vous êtes avec nous?
Oui, je suis avec vous.
Vous êtes en grève. Non, vous êtes là. Mais merci d'être avec nous dans Estelle Midi, Axel. Vous avez entendu bien sûr les déclarations de Clément Beaune, le ministre des Transports, qui est pour un encadrement du droit de grève. Vous la prenez comment, cette déclaration?
Sauf erreur de ma part, il a évoqué l'idée d'interdire le droit de grève pendant certaines périodes de l'année, à savoir les périodes scolaires. Par contre, il n'a pas dit qu'il comptait interdire au gouvernement, aux députés, d'examiner, par exemple, un projet qui s'attaque aux retraites pendant les vacances scolaires comme ils se font maintenant.
Non, ça l'arrangeait pas.
Sauf erreur de ma part, il n'a pas non plus prévu d'interdire à des employeurs de licencier, de procéder à la restructuration, de procéder à des appels contre les employés ou les salariés pendant les périodes de vacances scolaires. Donc la conclusion qu'on en tire, c'est tout simplement qu'il envisage l'interdiction du droit pour les travailleuses et les travailleurs de se défendre et tente d'allumer un contre-feu face à un mouvement social qui est extrêmement populaire, extrêmement soutenu par l'opinion, malgré les désagréments qu'il peut causer dans la vie quotidienne. Et c'est donc de déplacer le terrain sur le débat sur ce terrain-là.
Et c'est une provocation pour vous ?
De réforme.
C'est une provocation pour vous ?
Oui, c'est une provocation. Après, elle n'est pas unique en Europe. Hein. Actuellement,
non,
au Royaume-Uni, il y a un mouvement de grève extrêmement puissant, le plus puissant qu'ils ont connu depuis presque 40 ans, malgré des lois anti-grève déjà extrêmement draconiennes. Et là, la seule réponse du gouvernement conservateur en Royaume-Uni, c'est aussi de dire bon, on va instaurer des restrictions encore plus restrictives qu'il n'existe déjà. Donc c'est un peu la réponse que font tous les gouvernements qui se mettent au service des intérêts du patronat, tout simplement pour essayer de désarmer les travailleurs.
Alors, et
juste une précision. Sur ce que j'ai entendu tout à l'heure sur l'automatisation des lignes, je tiens quand même à préciser que quand les opérateurs des lignes automatiques sont en grève, le métro automatique ne roule pas. Quand c'est par exemple à Lille ou à Lyon, où une bonne partie des lignes sont automatisées, quand les grèves sont très suivies dans les postes de commandement du métro automatique, le métro est soit fermé ou partiellement en service. Hein.
Mais ça nécessite moins de gens quand même.
Ce qui importe, c'est est-ce que les salariés qui font tourner le métro, qu'ils soient conducteurs ou pas, est-ce qu'ils sont au travail ou pas. C'est ça qui détermine s'il va rouler ou pas. Hein.
Tout à fait. On a l'impression quand même, Axel Persson, votre mouvement, il s'essouffle un petit peu. Demain, on a vu les prévisions à la SNCF, à la RATP. C'est moins fort que les deux jours de grève précédents. Vous n'avez pas peur de ça, justement, là que ça s'essouffle?
Non, pas vraiment. Après, c'est-à-dire que oui, il y a un peu moins de grévistes demain, mais bon, on reste sur des niveaux très élevés de participation à la grève. Il y aura beaucoup de monde à la manifestation demain, sans doute un peu moins, puisque bon, on en parle de vacances scolaires dans pas mal d'endroits du territoire, pas en région parisienne encore, mais c'est pas mal de cas. Mais ce qui ressort un peu de toutes les assemblées générales qui ont été tenues, c'est qu'à un moment donné, il va falloir poser la question de la grève reconductible dans plein de secteurs de l'économie, dans le public et dans le privé. La seule question, c'est est-ce que ça aura lieu après les vacances, en mars, en février? C'est en ces termes-là que le débat est posé, pas autrement.
Oui, mais les gens n'ont plus beaucoup d'argent, donc en fait, à un moment, la grève reconductible, quand vous ne pouvez pas vous permettre de perdre 3, 4, 5 jours de salaire, c'est impossible aujourd'hui.
Oh, vous savez, en décembre 2019...
Il n'y avait pas une inflation à 6%.
Pendant la précédente tentative de casser le système de retraite en 2019, qui avait été mise en échec d'ailleurs, on est parti en grève sur 56 jours pour certains.
Oui,
et donc oui, ils
vous
payent à 0 euros sur 2 mois, y compris dans des secteurs où des gens gagnent vraiment pas beaucoup d'argent, parfois c'est le SMIC. Mais bon, la solidarité ouvrière a fait que personne n'est mort de faim, on a
galéré,
on s'est serré la ceinture, mais au moins on a repris le travail avec la fierté du devoir accompli et la satisfaction de pouvoir se regarder dans la glace, on s'est serré les coudes pour survivre et surmonter ces difficultés.
C'est en tout cas, nous,
des ressources qu'on a en tant que militant ouvrier.
D'accord. Alors, on a bien compris, en tout cas, que vous étiez évidemment contre l'encadrement du droit de grève. On a Mickaël, tiens, qui nous a appelé de Melun, qui est cadre dans l'informatique et qui, lui, est plutôt pour. Bonjour, Mickaël.
Bonjour. Bonjour à tous.
Vous, ça va, vous trouvez que c'est une bonne idée, l'encadrement du droit de grève?
Alors, en fait, oui, je pense que c'est une bonne idée de se poser la question de reformuler
ce que
c'est qu'une grève, finalement. En fait, moi, mon point, c'est peut-être, la question, je la poserais peut-être différemment. Je pense que c'est qu'est-ce qu'on peut faire pour redonner un peu de sens à ces notions de grève. Parce que ce qui est remis en cause, c'est pas le droit de grève. Et là, je vais aller à l'encontre un peu de ce que disait votre intervenant avant. C'est pas le droit de grève qui est remis en cause, c'est le droit de blocage. En fait, c'est ça qui est remis en cause à un moment donné. C'est-à-dire que aujourd'hui, de mon point de vue, une grève, par exemple, elle doit être motivée, évidemment, elle doit être exceptionnelle et limitée dans le temps. Quand ça devient systémique, tous les ans, toutes les mêmes corporations qui recommencent les mêmes choses, eh ben, ça pose un problème. Et surtout, un droit de grève n'implique pas automatiquement que vous avez le droit de, d'une part, de bloquer votre outil de travail, évidemment, mais aussi de bloquer les autres. C'est ça qui.
Bah oui, mais c'est ça qui marche. Si vous bloquez personne et si vous bloquez pas votre outil de travail, bah vous aurez pas ce que vous demandez.
C'est là que je suis pas d'accord, parce que il y a une idée dans la tête des gens qui émerge, qui est de dire on doit forcément être dans l'affrontement pour obtenir ce qu'on veut. C'est pas vrai. Au contraire, parce que ce qui va se passer, c'est que là vous allez peut-être gagner, mais là tout à l'heure j'entendais que soi-disant les gens comprenaient ça et soutenaient ce genre de choses. C'est faux. Factuellement, c'est faux. S'il y a que 8% de syndiqués en France, c'est qu'il y a aussi
une 10,3.
Oui, enfin, c'est, tout à l'heure, j'ai un de vos intervenants qui parlait des 8%. Donc, moi, ce que j'ai simplement, c'est qu'il y a un désaveu. Il y a un désaveu. Pourquoi? Parce que les gens ne comprennent plus ça et ne supportent pas ça.
En fait, mais regardez les dernières grèves, Michael. Tous ceux qui ont fait grève dans les raffineries, les cheminots, etc., ils ont obtenu gain de cause. Si vous, cadre dans l'informatique, vous faites grève, Michael, enfin, c'est terrible pour vous. Mais malheureusement pour vous, ça n'aura pas de poids. Si vous êtes cheminot, si vous êtes prof, ça aura du poids, c'est sûr.
Oui, mais ce que dit Michael, c'est justement par rapport à ce taux de syndicalisation de 8 ou de 10%, peu importe. C'est juste que comme il est si faible, le seul outil reste la grève. Si on passait par un véritable dialogue, on pourrait obtenir des choses sans forcément bloquer et arrêter, stopper les choses.
Le problème, si vous voulez, c'est, encore une fois, je répète, c'est pas le droit de grève. Le problème, la grève, c'est une cessation d'activité. Le problème, c'est le droit de blocage. Et je le redis, un affrontement, c'est pas un outil, en fait. C'est ça que les gens doivent comprendre.
Mais s'ils bloquent pas, ils auront pas ce qu'ils veulent.
Ouais, ils n'ont que ça.
Au final, ils l'auront que on va dire, ils l'auront épisodiquement, parce que vous croyez quoi? Là, les personnes qui ont obtenu ça, très bien, l'énergie, tout ce qu'on veut, leur patron, à un moment donné, ils vont se rappeler de ça. Donc, si vous voulez, c'est un peu un jeu de dupes. C'est que, comme quand vous avez une guerre, le vaincu du moment peut devenir le vainqueur du lendemain.
Oui, sauf que quand vous négociez, Michael. Oui, mais parce que quand vous négociez une augmentation de salaire, en termes de salaire, ce qui est pris n'est plus à prendre. C'est-à-dire qu'en fait, personne ne peut revenir sur votre augmentation. Donc, si jamais vous réussissez à avoir 5%, vos 5%, ils sont gravés dans le marbre. Et ça veut dire que pour après, là, je parle des cheminots, par exemple, les cheminots qui viendront derrière, ces 5%, ils sont acquis. En fait, on ne peut pas revenir dessus. Donc, en fait, c'est toujours une victoire. Il n'y a jamais de défaite. Quand on obtient une augmentation, par exemple.
Oui, d'accord, mais là où je ne suis pas d'accord avec vous, c'est que la défaite, elle n'est pas peut-être sur ce niveau-là, mais elle interviendra sur autre chose. Parce que, c'est ça que je veux dire. C'est-à-dire que obtenir des choses dans l'affrontement, c'est jamais pérenne dans le temps.
D'accord.
C'est ça que je dis. Et pour moi, je le répète, si vous voulez avoir l'adhésion des personnes, on va être clair, il faut arrêter ce droit de blocage. Donc, encadrer, c'est très, très bien. Je pense qu'il faut se poser les questions, en tout cas, trouver des options. Et je crois que c'est Pierre Collégas qui disait ça. Déjà, réfléchir sur le service minimum, c'est pour le coup, c'est un minimum. Mais je pense qu'il faut vraiment redonner du sens au mot grève, parce qu'aujourd'hui, c'est illisible.
Eh ben merci beaucoup, Mickaël, en tout cas, d'avoir été avec nous. Eric nous appelle de Nîmes. Bonjour, Eric.
Bonsoir.
Ah, Eric, vous êtes avec nous?
Oui.
Ok.
Eric, moi, je vais être un peu radical. Oui, moi, je suis carrément pour l'interdiction du droit de grève et de manifester.
Ah, quand même. Ah oui, d'accord.
Et
c'est un peu radical,
autre solution.
Ah bon?
Une solution démocratique. Bon, alors, pourquoi je suis contre? Inégalité. Il y a deux inégalités. Les policiers, les gendarmes et les militaires ont pas le droit de faire grève.
Donc, c'est pas que les médecins, les pompiers.
Deuxième inégalité, c'est le pouvoir de nuisance. Comme par hasard, tous les ans, c'est toujours les mêmes qui font grève, qui bloquent le pays. Les cheminots, l'EDF qui veut couper l'électricité. C'est plus possible de faire.
Oui, mais ils le font pas que pour eux. Eux, ils disent aussi qu'ils le font pour tout le monde.
Ah non, c'est faux. C'est faux.
Pour tout le monde. Hein.
À quel moment les syndicats ont demandé à manifester par rapport aux privilèges qu'ont les gens du public?
Là, quand ils manifestent contre la réforme des retraites, c'est pour tout le monde.
Les jours de carence, oui et non. Oui et non. Les jours de carence, ils ne demandent pas à manifester. Les syndicats, pour moi, ils représentent que les gens du public. Voilà.
D'accord.
Contre le privé. Il y a des gens du public, les gendarmes qui partent à la retraite à 50 ans, et on demande à les autres à travailler jusqu'à 64 pour que les autres partent plus tôt.
C'est quoi votre solution, Eric?
Ah ben, ma solution, il me faut du temps, et vous me passerez notre jour si vous voulez. C'est des référendums par Internet. à multiples questions, des référendums consultatifs et interactifs. Moi, j'ai plein d'idées à proposer. Je mets mes idées dans le circuit. Les gens, s'ils sont favorables, par exemple, à 80%,
mais moi aussi, j'ai plein d'idées, mais
de valider.
Oui, non, mais ça c'est très bien, Eric. Mais alors, le référendum sur Internet, et dans ce cas-là, si on fait pour ou contre la retraite à 64 ans, par exemple,
non,
la question va être vite répondue, comme on dit.
Je vais vous expliquer. Je vais vous expliquer.
Oui, mais alors rapido. Hein.
Voilà. Il ne faut pas poser des questions fermées qui aboutissent à rien. Il faut poser des questions intelligentes, du genre préférez-vous cotiser plus ou préférez-vous repartir plus tôt. Je vais vous apprendre une chose. Pour gagner 4 ans de retraite, il faut y laisser 10% de son salaire. J'ai fait le calcul. Donc, l'inflation, c'est 6%. Il faut rajouter 10% pour pouvoir partir 4 ans plus tôt. Les auditeurs peuvent faire le calcul, mais ça fait 10%.
Non, mais c'est peut-être une très bonne idée, mais je ne crois pas, en tout cas, que là, tout de suite, le gouvernement mette ça en place pour limiter le droit de grève.
Ça peut être un programme politique.
Mais oui, mais après.
Présentez-vous à la présidentielle avec ça, vous pouvez faire un carton.
Mais il y a beaucoup de partis qui étaient en faveur du référendum, justement, sur les retraites.
Internet. Hein
sur Internet. Oui. Là, on est quand même sur
les ceux qui n'ont pas d'accès aux connexions Internet.
Du principe que s'il y a une majorité sur une de la population qui est d'accord sur un sujet, on doit automatiquement l'appliquer. Mais c'est la fin de la démocratie représentative.
Oui.
Gouverner, c'est pas juste faire ce que sujet par sujet les gens réclament.
Non.
C'est aussi être capable de prendre des décisions impopulaires sur le moment, parce qu'on pense que c'est le bien du pays pour les 5 ans, 10 ans qui viennent. Sinon, ça s'appelle la démocratie participative à la Ségolène Royal, qui finit par des agora ou par des sondages. Mais vous pouvez, tous les 6 mois, on peut rétablir la peine de mort.
Si après un référendum,
ça passe.
Jérôme a raison.
52% des Français.
Jérôme a raison. Il faut juste que ta représentation nationale soit représentative.
Exactement.
Elle l'est pas toujours. Voilà. Mais alors, quand elle le sera à 100%, il y aura pas.
Les gens n'ont qu'à se déplacer pour aller voter.
On est entre autres.
On va remercier les auditeurs qui nous ont appelés sur ce débat et Axel Persson, secrétaire général de la CGT cheminots à Trappes. Et bonne manif demain. Axel, on vous a posé la question, en tout cas sur le compte Twitter d'Estelle Midi @EstelleMidi. Faut-il encadrer le droit de grève, Rémi? Et puis vous avez des messages.
Oui, c'est étonnant le résultat, en tout cas par rapport à ce qu'on pourrait attendre de ceux qui sont gênés par la grève dans les transports en commun.
On est de moins en moins gênés.
Ben c'est non à 64% de ceux qui sont prononcés sur nos réseaux sociaux.
Ah oui, c'est normal.
Et vous avez des messages également.
Par principe, non, il ne faut pas interdire ou en tout cas trop encadrer les grèves, nous dit Marc sur Direct Studio, mais cela devrait venir des syndicats négocier avant de bloquer et non pas l'inverse.
Mais là, je crois qu'ils ont essayé de négocier.
Mais
je crois que la porte n'a même pas été entrouverte.
Voilà.
Hein,
on peut dire et vice versa.
Oui, bien sûr.
Et vice versa, le gouvernement a fait des propositions et les syndicats ont dit non. Si vous augmentez la durée, c'est miette.
Aujourd'hui,
c'est inacceptable pour le bien du pays.
C'est vrai.
Manifestement, les gens n'en veulent pas parce que t'as 93% des actifs qui sont contre.
Mais moi, je suis pour arrêter de travailler à 50 ans et avoir un taux de remplacement de 100%.
Entre nous, le projet, il est à moitié mort.
Je suis pas sûr que ça arrive.
C'est pas le débat. Le projet, il a du plan dans
l'air. Il y a 2 millions de personnes dans la rue demain.
63 ans, à condition que 20 ans.
Bon. Dans un instant, c'est la journée internationale sans portable aujourd'hui. Seriez-vous capable de vous passer de téléphone durant 24 heures? Dites-nous tout au 32-16 et sur l'application RMC. A tout de suite dans Estelle Midi.
RMC, midi 15h.
Estelle Midi. RMC, midi 15h. Estelle Midi.
Estelle Denis.
12h30 sur RMC, RMC Story, vous êtes dans Estelle Midi avec aujourd'hui autour de la table Rémi Barré, Perry Collégas, Pierre Rondeau et Jérôme Lavrieux. Et on va tout de suite s'intéresser à la journée internationale sans téléphone. Et cette journée, eh bien c'est aujourd'hui, ça existe depuis 2001, donc autant vous dire que c'était beaucoup plus simple en 2001. Et cette journée a un but, nous faire réfléchir sur l'usage du téléphone, un usage immodéré d'ailleurs pour la plupart d'entre nous, Rémi.
Oui, c'est ce que nous dit le dernier baromètre annuel de la société spécialisée dans les données numériques, elle s'appelle data.ai. L'année dernière, le temps passé devant nos petits écrans a battu des records, je parle du smartphone, hein. Sur les 10 principaux marchés mobiles mondiaux, les utilisateurs ont passé en moyenne 4h48 par jour sur leur téléphone. Cela représente un tiers de leur journée éveillée, soit une augmentation de 30% par rapport à 2019. Les plus accros, ce sont les Brésiliens, les Indonésiens, les Sud-Coréens, avec plus de 5 heures passées chaque jour devant un écran de smartphone. La France n'est pas si loin, avec en moyenne un peu plus de 3h30 par jour à consulter son smartphone. Juste derrière, il y a l'Argentine et devant, nous sommes devant l'Allemagne, un temps passé sur son portable qui ne cesse d'augmenter. 3h30 aujourd'hui, passé devant le portable, alors que les Français ne restaient que 2h45 en moyenne sur leur téléphone portable en 2019, année de référence, avant le Covid. La crise sanitaire et les confinements n'ont d'ailleurs pas aidé les utilisateurs à décrocher, loin de là. Et ce n'est pas fini. Hein. Selon la même société Data.ai, d'ici 5 ans, notre temps passé sur notre smartphone devrait encore augmenter de 38%.
Ah oui, quand même. Et je crois qu'autour de la table, certains soient beaucoup plus que 3h30. Seriez-vous capable de vous passer de téléphone portable pendant 24 heures ? J'ai commencé avec vous, Jérôme Lavrieux.
Eh bien, si j'avais fait ça aujourd'hui, je ne serais pas venu.
Et pourquoi ?
Bah, parce que je n'aurais pas pu prendre mon train.
Vous pouvez prendre le train sans téléphone ?
Non.
Là, vous n'avez qu'à prendre un billet carton ?
C'est disparition dans 2 mois. Il n'y a pas de billet carton.
Aujourd'hui. Oui, bon.
Donc j'ai mon truc dessus avec ma carte de réduction. Donc on me demande de le montrer. Et le contrôleur, il a la même chose pour biper sur mon QR code. Voilà. J'aurais pas su si j'avais quelqu'un qui avait le Covid à cause de moi, parce que j'ai tous anti-Covid sur mon truc. J'aurais pas pu préparer l'émission de ce matin, parce que j'avais pas accès à la presse, puisque tous mes journaux, je les ai en version numérique.
Mais vous n'avez qu'à les acheter au kiosque.
Et j'aurais pas pu payer, puisque ma carte bleue, elle est sur mon téléphone.
Vous n'avez qu'à payer en liquide, comme tout le monde.
Ah ben, depuis longtemps, j'évite d'avoir du liquide sur moi, parce que sinon, ça me vaut des ennuis judiciaires.
Ah oui, c'est vrai, pardon. Donc, c'est vrai, je n'avais pas pensé à cet état de fait.
Pourquoi je dis ça? Parce qu'en fait, c'est pas juste téléphoner. Et mon métier, en plus, c'est de répondre au téléphone. Et je passe des heures aussi au téléphone. Donc, si je cumule iPad, iPhone, c'est-à-dire lecture plus téléphoner, je suis à plus de 6 heures par jour. Mais ça fait partie de mon boulot aussi.
C'est plus que moi.
Ça fait partie de mon boulot aussi.
Et si on vous file votre portable, vous faites comment ?
Je m'arrange pour en avoir un qui me soit livré dans les 2 heures.
Comment
changer ? Sinon, je ne peux pas faire autrement. C'est pour ça que j'ai un abonnement professionnel et qu'ils ont l'obligation de me le remplacer assez rapidement.
Vous allez nous faire pleurer, quoi.
Ah non, mais sinon, que voulez-vous que je fasse ? Et c'est pas pour. Et je ne suis pas sur TikTok, je ne regarde quasiment jamais Instagram, je ne vais jamais sur Twitter. C'est juste parce que c'est une extension. Même pour lire un roman, dans le train.
Comment vous ne les avez pas montés sur le téléphone, quand même ?
Sur ma tablette, c'est la même chose. Je me balade.
Je sais pas, moi j'achète des vrais livres, excusez-moi.
Moi aussi. Et ne vous excusez pas, vous avez bien raison.
Mais bien sûr.
Moi aussi, j'ai beaucoup de livres chez moi, mais pour me balader dans le train ou ailleurs, je les lis là-dessus.
Pierre Rondeau, vous aussi, vous êtes accro à votre téléphone ?
C'est impossible de m'en séparer.
Dites la vérité. Combien ? Parce qu'on a tous reçu le rapport de temps hebdomadaire sur votre portable.
Oui, 4 heures en moyenne, mais moi je suis largement au-dessus, moi. 6 heures, sûrement 6 heures, voire 7, je sais pas, mais j'y suis tout le temps, c'est ma troisième main. C'est vrai que là-dessus, je suis extrêmement dépendant à mon téléphone. C'est sûr que si je le perds, il y a une phobie.
Ça te gêne pas d'être dépendant?
Et effectivement, la question se pose sur cette journée sans téléphone qui date de 2001, moi ça m'étonnait ça. En 2001, je considérais qu'on était dépendant du téléphone, ok.
On avait un bebop, mais enfin, on pouvait s'en passer.
Oui, voilà, mais j'arrête d'appeler pendant une journée. Mais est-ce que c'est vraiment une dépendance? Est-ce que c'est vraiment un danger, est-ce que c'est vraiment une inquiétude d'être autant devant un téléphone? Je veux dire, aujourd'hui, comme l'a dit Jérôme, on peut lire avec, on peut s'informer avec, on peut téléphoner avec, heureusement encore aujourd'hui, on peut dialoguer avec, on peut discuter avec, on a accès à l'information de façon instantanée, c'est un merveilleux outil de technologie. Pourquoi on devrait le diaboliser? Pourquoi on devrait dire c'est inquiétant, c'est dangereux, on devrait imposer
de rien son téléphone? Mais c'est inquiétant d'être aussi accro.
Oui, mais ça veut dire qu'en fait, finalement, et tu as raison Estelle, lire un livre, je pourrais prendre un vrai livre, c'est vrai. Lire la presse, je pourrais prendre la presse, la presse papier. Parler à quelqu'un, je pourrais aller voir la personne directement. Jouer à un jeu, je pourrais faire un jeu de plateau, c'est vrai. Sauf que j'ai tout accès dans ce téléphone et je peux le faire. Je continue à avoir un lien social, je continue à m'informer, je continue à téléphoner, je continue à discuter, je continue à travailler à travers le téléphone. Donc c'est pas diabolisant et c'est pas diabolique de rester 6 heures sur un téléphone si c'est pour travailler. Effectivement, si c'est pour aller sur TikTok, Snapchat, Instagram.
Bon, bah, t'y vas aussi.
J'y vais aussi, mais pas 6 heures.
Tu passes pas 6 heures à travailler?
Non, mais effectivement, effectivement les réseaux sociaux. Mais attends, j'ai envie de te dire, c'est pareil quand toi au travail et qu'on a à son bureau, qu'on est de 8h à 18h au bureau devant son écran d'ordinateur. Il va pas me faire croire qu'on travaille de 8h à 18h sur son écran d'ordinateur. On va aussi faire autre chose sur Internet.
Mais très peu.
Oui, le travail effectif, c'est 4 heures en moyenne de productivité. Sur une journée complète, déjà, voilà. Mais ce que je veux dire, c'est que oui, j'en serais incapable, mais j'ai pas le sentiment d'être dépendant. Je vais pas diaboliser le fait d'avoir un téléphone.
Perico Legas, vous qui êtes à l'aide de c'était mieux avant, c'était mieux avant sans portable ou pas?
Ah, bien sûr. Oh. Alors,
vous qui êtes toujours sur votre téléphone dans
il a caché son téléphone exprès.
Non, il est là.
Une émission sur deux, ton téléphone sonne pendant l'émission.
Je vais vous moucher parce que j'ai vérifié. Je ne sais pas qu'il y avait une fonction. 2h45. La moyenne, 2h45, et j'ai une alerte qui me dit que ma consommation a baissé de 17%, vous voyez, la semaine dernière, par rapport à l'eau. Et je dépasse pas plus. Il y a qui sait que je l'utilise? Parce qu'il y a la réactive, je vérifie ce que vous dites si c'est vrai. J'ai des gens qui m'appellent pour dire c'est génial ce que je dis et tout, donc je suis obligé de répondre. Non, je plaisante. Question sournoise, subversive et pernicieuse.
Pourquoi?
Toute notre civilisation est faite pour qu'on soit dépendant. Alors c'est facile de nous dire, si on vous coupait. Je l'ai perdu l'autre jour. Je l'ai oublié il y a un mois. Donc ça veut dire que pendant 3-4 jours, je suis resté sans portable. Alors, au début, j'ai fait 3 malaises, 2 tachycardies, on a fait de la... Voilà. Et puis la vie reprend. Et je suis allé chercher du papier, du carton, je me suis déplacé.
Un pigeon
J'avais un coup de tam-tam, un nuage de fumée. Si demain on nous le supprime, vous avez l'humanité, on se portera très bien.
Mais je suis pas sûr.
Non mais c'est un progrès merveilleux. C'est ce que j'ai répondu. J'ai un ami qui est mort, il va faire un tour de vélo avec sa sœur, 33 ans, et elle lui dit, est-ce que cette fois-ci, patron de presse, tu peux pas prendre ton portable qu'on fasse la balade en vélo tranquille. 33 ans, infarctus du myocarde, il aurait eu son truc, il serait encore là, et il est mort parce qu'il n'avait pas...
On peut pas prendre notre portable en se disant...
Voilà. L'urgence, j'assiste à l'assaut de l'Elysée, je suis seul aux Champs-Élysées, un commando prend l'Elysée, je suis seul à prévenir, pas de porte, non mais je vous dis des exemples, c'est un outil formidable pour sauver des vies, de prévention, de communication. Je me disais, comment on faisait quand on ratait son train autrefois, qu'on ne prévenait pas les gens, ils arrivent sur le quai de la gare, ensuite il n'est pas descendu, puis en arrivant, il y avait un coup de fil, il y avait Tata qui disait, il a appelé, il a raté son train. Ça nous facilite la vie.
Ça
crée des dépendances. En même temps, ça crée des dépendances. D'abord, sur le plan neuronal, les enfants, ils ne pensent plus, tout est là-dedans. On n'a plus de calcul mental, on n'a plus de réflexion par nous-mêmes. On est dépendant de toutes les fonctions formidables. On est esclavagisé, on finira un jour avec un cortex et une électrode. Avec donc il y a le côté progrès formidable, il y a le côté dépendance qui est une réalité. Je vous dis seulement que si demain c'est supprimé, on vivra très bien. Ça sera comme avant, ça sera beaucoup mieux. Et si ça continue...
Ça ne sera pas supprimé.
Non, imaginez qu'il y a une forme de terrorisme qui paralyse les connexions. Vous voyez, un jour, qu'il n'y ait plus de portable.
Oui.
Comme une panne d'électricité. Oui. Ça peut arriver. Je vous jure que l'humanité s'en remettra et qu'on vivra très bien.
Moi, je ne m'en remettrai pas.
Je vous enverrai un mot pour vous. Je vous enverrai une lettre pour vous inviter à dîner.
Pour m'inviter à dîner.
Oui, je vous enverrai une lettre avec ma plume. J'écrirai à Jérôme pour dire qu'il me manque. Et Pierre Rando nous enverra des pamphlets révolutionnaires pour. Voilà. Et Rémi l'a toujours écrit. Donc c'est bon.
Alors, seriez-vous prêt à vous passer de téléphone portable pendant une journée? C'est la question qu'on vous a posée et c'est Mathieu qui nous appelle de Comines dans le Nord qui va y répondre. Bonjour Mathieu.
Salut toute l'équipe.
Salut Mathieu. Vous pourriez vous passer de téléphone? Là pas tout de suite parce que vous nous appelez en fait, donc ça ne m'arrangerait pas.
Oui,
bien sûr, mais sinon...
Oui, moi je suis 3000% d'accord avec Perico. Moi pendant l'été j'arrive à quitter mon téléphone, et c'est comme je disais à Rémi, le standardiste.
Oui, bien sûr.
Ouais. Je disais, besoin de mon téléphone à titre professionnel pour gagner du temps, mais je trouve qu'à côté de ça, c'est une futilité. Et quand j'entends beaucoup de jeunes qui disent qu'ils n'ont pas le temps de faire ça, vu le temps qu'ils passent devant un téléphone portable quotidiennement, tout ce qui est fait là-dessus, ils peuvent pas faire autre chose. Moi, je pense que c'est une drogue dont on ne sent pas encore les effets. Et moi, en tant que kiné, je vois aussi depuis quelques années des jeunes adultes qui ont des problèmes cervicaux, qui ont des problèmes aussi de fermeture au niveau de l'épaule et qui vont se retrouver avec des névralgies dans 10-15 ans. Et après, on ne connaît pas aussi tous les effets
des ondes
au niveau du cerveau. Hein. Moi, je suis persuadé que c'est une drogue. Et ma femme, elle a 2 enfants de 22 ans et 20 ans. Je pourrais vous narrer pendant 10 heures ce qui s'est passé avec eux avec leur téléphone. Ça me rend presque malheureux quand je les vois actuellement. Je vous le garantis. Hein. Je vous le garantis. C'est une vraie saloperie. Hein. C'est une vraie saloperie.
Mais Mathieu, vous êtes kiné et vous dites que vous l'utilisez pour bosser. Mais est-ce que le reste du temps, vous le laissez loin de vous?
Ah oui.
Vous arrivez à pas aller sur Instagram, TikTok, Instagram, les actualités, etc.
Les actualités, je les suis à la télé le matin et le soir. Ouais. Mais non, mon téléphone, pour la banque, pour des réseaux sociaux sportifs, et c'est tout. Mais j'arrive à faire sans. Pendant les vacances, j'arrive à faire sans. Moi, quand je vois aussi des gamins devant les abribus, où il y a 10-12 gamins, ils sont tous la tête penchée en avant, il n'y en a aucun qui discute. Enfin, quand vous voyez aussi dans certaines réunions de famille où finalement, les aînés, ils sont tristes de voir les réactions des enfants et des petits-enfants, où en fait, il n'y a personne qui discute, tout le monde avec son téléphone. Moi, je trouve ça fatigant.
Merci beaucoup pour ce témoignage. Pas très gay, Mathieu, mais qui reflète quand même une réalité.
Juste un témoignage.
C'est un élément pratique.
On est tous d'accord. Bien sûr. Merci, Mathieu.
Voilà, bonne journée.
C'est pas honnête de compter le temps que l'on passe au téléphone.
Pourquoi?
Parce qu'on a toujours. J'avais une tante qui passait des communications téléphoniques. Elle restait 5 heures ou 4 heures. On appelait les réclamations en disant elle doit être en dérangement. Elle disait non, j'étais avec mon frère. Des conversations de 3 heures, 2 heures.
Moi, ça m'arrive encore.
Mais au téléphone avec les 63, vous savez que
ça. Oui, mais c'est pour ça qu'il faut savoir de quoi on parle.
Alors, non, ce qu'il faudrait dire, c'est le temps de tablette qu'on utilise en tant qu'écran. Et quand je vois des enfants. J'allais dire de bonne éducation,
oui.
Dont les parents, auxquels les parents prévoient un programme de vacances, les châteaux de la Loire. Et ils restent, pendant qu'on va visiter les châteaux ou le musée, ils restent dans la voiture avec leur écran.
Non,
ça, c'est pas possible.
Mais oui, d'accord.
Et on dit rien parce que sans ça, ils font la gueule pendant
qu'ils disent. Mais après, tu peux aussi, parce qu'on diabolise actuellement le smartphone, mais quid de la télévision aussi. Parce que il y a 15 ans, quand on n'avait pas les smartphones,
la télévision,
c'est pire, c'est le temps d'écran.
La télévision fait que nous sommes devenus une société de merde.
On a tablette, on a smartphone.
Mais tu as raison. Donc l'écran, le temps d'écran total entre l'ordinateur et la télévision.
Et le temps d'écran total, je suis désolé. Alors peut-être que ce que je
suis. C'est une horreur néolibérale que tu soutiens parce que tu fais toi-même
la diabolisation. Moi, avant, quand j'étais plus jeune, quand j'étais collégien, lycéen et que j'avais pas les smartphones, je passais beaucoup de temps sur les écrans à jouer aux jeux vidéo. Et c'est pas pour autant que les jeux vidéo vont altérer mon cerveau.
Ça se voit dans ton argumentation politique.
Voilà. Moi, je téléphonais beaucoup, vous savez, le téléphone à long fil.
Ouais.
Ah, c'était génial.
Formidable.
Et aussi, qui se tournait aussi.
Et qui se tournait, j'ai vécu cette époque-là, oui.
On travaillait comme ça dans le salon avec le 63, l'écouteur. Et l'écouteur.
On écoutait les conversations des autres. Oh, c'était génial.
Mathieu avait raison dans l'auditeur. Il m'est arrivé en 2014 des bricoles, et du jour au lendemain, j'ai plus de 3000 noms dans mon répertoire, du jour au lendemain, je n'ai plus reçu aucun appel de personne.
Ah oui.
Mais vraiment de personne. Mes parents, mon frère, ma sœur, mon avocat, c'est tout.
Un petit accident.
Et je vous jure que pendant des mois, je regardais comme un con mon téléphone 20 fois par jour.
Pour voir si les gens vous appelaient ?
Non, pour voir s'il n'était pas en panne.
Merde. Oui,
et je me dis, vous êtes incapable. Moi, pendant 10 ans, je dormais avec mon téléphone sur ma table de nuit branchée. Parce que s'il y avait une urgence, etc., dans la nuit, etc. Et là, même dans la nuit, je me réveillais, je dis, mais personne ne m'appelle. Je peux vous dire que ça fait drôle. Donc, il a raison, c'est...
Leçon de philosophie.
C'est une drogue.
C'est une drogue.
Toi, c'est une leçon philosophique qui nous donne là.
Et quand on se retire de ça, c'est pour ça que je suis plus souple maintenant. Moi, je me sers plutôt comme substitut à la lecture papier. Plutôt que de passer des appels. Les appels, je les passe pour des raisons professionnelles. Mais il faut reconnaître qu'on est drogué. Ça, c'est vrai. Mathieu, notre auditeur...
Il a raison.
Comme souvent, nos auditeurs...
Je suis en train de faire un guide très rapide de zones non couvertes où aller passer les vacances, je ne comprenais pas. Ça m'est arrivé 3 fois. Donc, au début, on commence à trembler. Et puis, on a fait, y a le champ du coq, il y a la rivière, on va chercher la truite. Putain,
mais Péricot...
Alors, 8 jours après, quand on arrive, le portable marche tout seul parce que tout s'est accumulé. Tant pis. Dans quel bon temps on a pris entre temps.
Dans mes gîtes, je mets à disposition des dizaines de boîtes de sociétés.
Oui.
Au début, tout le monde me disait oh, personne ne va s'en servir. Tu verrais.
Bien
les
sûr.
Gens, ils en prennent.
Génial.
Je suis obligé. Les puissances 4, j'en ai 4. Justement.
C'est
parce
mon
que
jeu.
Tout le monde veut jouer aux puissances 4 en même temps. Etc. Oui, on capte. Mais au début, je leur dis, je leur fais visiter, j'ai regardé. Ça, c'est la ludothèque. Ah, c'est quoi? C'est si vous n'avez pas envie de rester chacun d'un coin de la banquette avec votre téléphone portable sans vous parler. Et alors, les parties de Monopoly, de Scrabble, de machin, les gens redécouvrent. Et même les jeunes se mettent à y jouer.
Exactement.
Et le téléphone, il reste toujours à portée de main, mais ils s'en servent un peu moins.
Pierre Rondeau, qu'est-ce qui vous manquerait le plus, vous, si vous deviez passer une journée sans portable?
Waouh. Mais tout, en fait.
Mais quoi, tout?
L'accès à Internet, mais je sais pas, mais pour n'importe quoi, quand on a une problématique, on a besoin d'une information, on va directement demander au téléphone, c'est facilité, les réseaux sociaux aussi, le lien social.
Moi, par exemple, je pourrais me passer de réseaux sociaux pendant 24 heures sans aucun problème.
Je pourrais me passer, bien évidemment, très facilement de
et
Twitter,
on va mieux.
Instagram.
Non, je vous jure qu'on est mieux.
C'est juste vraiment, je sais pas si on est mieux, encore une fois, je sais pas si c'était mieux avant. Avant, on ne vivait pas avec ce téléphone, donc on n'y était pas habitué. Maintenant, on y est habitué, je vois pas pourquoi on devrait revenir en arrière et dire que c'était mieux avant. Avant, par exemple, je vais prendre un cas très concret de construction d'un devoir maison, d'un exposé qu'on a au collège ou au lycée.
Oui.
Autrefois, quand on n'avait pas les smartphones et l'accès facilité à Internet.
On pouvait pas faire un copier-coller, c'est vrai, on pouvait pas pomper, t'as raison.
Vraiment,
on était obligé de travailler par soi-même, de réfléchir, tu as raison.
On allait chercher l'information. Maintenant, ce qu'on met en avant, c'est la capacité à s'exprimer. L'oral a présenté un exposé qu'on aura capté via Internet et via le copier-coller. On a juste évolué, c'est différent.
Il y a un point qu'on a oublié, c'est le côté répressif. Ça permet à la police d'arrêter les salauds, les voyous.
Mais comme autrefois,
ça c'est pas mal.
Ça permet aux salauds, aux voyous de trafiquer sur le dark net.
Aussi.
Et puis il y a aussi un truc, c'est qu'avant tu voulais pas répondre, tu répondais pas. T'étais pas sommé de répondre tout le temps. Aujourd'hui, il y a un truc d'immédiateté qui est insupportable.
Maintenant, on le sait. Par exemple, sur WhatsApp, il y a des petits trucs bleus pour savoir qu'on a lu le message. J'ai pas envie que les gens
savent. Tu peux l'enlever.
Ah bon?
Ah, moi,
heureusement, il nous reste de temps en temps quelques tunnels. De dire, ah, ça capte pas. Non, je te rappelle, je suis dans un tunnel.
Moi, parfois, je reçois les SMS, je fais exprès de pas les lire parce que j'ai peur qu'il y ait marqué vu. Et après, je dis, mais j'ai pas reçu, je comprends pas. Maintenant que je l'ai dit, mon explication est grillée, mais je vous jure, je fais ça. Mais là, mais parce qu'il y a un moment où vous avez pas envie de répondre, vous avez pas envie de répondre, mais vous pouvez pas dire, j'ai pas envie de répondre, ça se fait pas.
On décroche pas, c'est tout. En plus, il y a le nom de la personne qui s'allume.
Mais non,
j'accompagne
les
SMS.
S'ils ont un message et tu l'as lu, tu vas te forcer à la répondre, mais t'as pas envie.
Alors, on vous a posé la question, justement. Seriez-vous capable de vous passer de téléphone portable pendant une journée? On a bien compris que sur ce plateau, la réponse était non.
Moi, j'ai dit oui.
En tout cas, ils sont assez motivés, puisque c'est oui pour 43%.
Ils sont pas motivés, alors.
Je trouve que c'est beaucoup, moi. 43% qui se disent capables. Mais bon, on l'a compris, c'est pas le cap.
Pour une majorité
de ceux qui sont prononcés sur les réseaux sociaux, 57% d'entre eux ne sont pas capables de se priver de leur portable une journée.
Alors, on continue à parler de téléphone dans un instant. Mathieu, le kiné qu'on a eu en ligne, là, il y a un instant, nous l'a dit. Il y a des nouvelles maladies liées au téléphone portable. Et bien, Anthony Morel va nous les lister, ces nouvelles maladies.
Voilà. Tu m'étonnes.
Ça va peut-être nous calmer.
Oui, à mon avis, on va se calmer tout de suite avec le téléphone. Sur RMC.
RMC, midi 15h,
Estelle Midi. RMC, midi 15h, Estelle Midi.
Estelle Denis.
51 sur RMC, RMC Story. Vous êtes dans Estelle Midi et c'est le moment d'accueillir Anthony Morel.
RMC, Estelle Midi.
On n'arrête pas le progrès.
Et Anthony Morel, on vient d'en parler. C'est aujourd'hui la journée mondiale sans portable. On est tous de plus en plus accros. Et malheureusement, il y a des conséquences néfastes sur notre santé, des maladies liées au téléphone portable.
Absolument. Est-ce que vous savez d'abord pourquoi c'est aujourd'hui la journée sans téléphone?
Ben non, pourquoi?
Parce qu'on est le 6 février. Février, c'est la Saint-Gaston.
Ah, mais oui.
Bah voilà, c'est juste pour ça.
C'est franco-français,
mais quand même. Alors oui, effectivement, il y a plein de maladies parce qu'effectivement, on passe en moyenne. Vous savez, le chiffre moyen, c'est 5 heures par jour en moyenne et par personne. Alors ça dépend évidemment des tranches d'âge, etc. Et ça a évidemment des conséquences. Tiens, par exemple, le text-neck. On dit tech-neck ou text-neck, donc on pourrait traduire ça par le torticolis du texto, c'est-à-dire en gros les problèmes de cou, de cervical qui sont liés au fait qu'on passe beaucoup de temps voûté sur son téléphone. Et il y a des kinés, des médecins. Comment ?
Faut envoyer des vocaux.
Oui, c'est ça, c'est plus pratique, effectivement. Mais quand même, ils vous disent, il y a des personnes de 20 ans qui viennent consulter, elles ont le cou et la colonne vertébrale d'une personne qui en a 40 normalement, c'est-à-dire avec des problèmes comme des hernies discales, des problèmes de déplacement des vertèbres, enfin des trucs comme ça, des gros soucis quand même, quoi. Alors, pourquoi ? Bah, parce que notre tête, elle pèse 5 kilos, mais dès que vous l'inclinez un petit peu, de 15 degrés, bah, en fait, c'est 12 kilos qui pèsent sur vos cervicales. Si vous l'inclinez à 60 degrés, c'est 27 kilos. Donc forcément, ça a un impact très très clair. Il y a un autre problème, c'est la ride, on appelle ça la ride du smartphone. C'est en fait une ride du cou.
Ah, moi, je ne veux pas
voir ça. Vous ne l'avez absolument pas, vous inquiétez pas. Mais apparemment, le fait d'utiliser massivement son téléphone générerait ou accentuerait une ride qui est comme ça dans le pli du cou. Et c'est même devenu un business très juteux pour les cliniques esthétiques. Par exemple, il y a plein de jeunes qui viennent se faire résorber la ride du cou. Et aussi pour des groupes de cosmétiques qui vendent maintenant des crèmes anti-âge spéciales ride du cou. Apparemment, au niveau des yeux aussi, la luminosité du smartphone peut accentuer les rides au niveau des yeux. Donc attention aussi à ça.
Sur les hernies discales, je m'en fous.
Du coup,
ça me parle. Il y a aussi des troubles psychiques qui sont liés à l'utilisation du téléphone portable, Anthony.
Vous en parliez un petit peu pendant votre débat, ce qu'on appelle la nomophobie, par exemple, qui est un mot qui est entré dans le dictionnaire dans les pays anglo-saxons. Donc ça vient de no more phone, le fait de ne plus avoir de téléphone, d'être privé de son smartphone, et ça génère de l'anxiété et du stress, mais réel, qui a été mesuré par des chercheurs. Apparemment, c'est à peu près équivalent au stress qu'on a quand on est dans le cabinet d'un dentiste, en termes de niveau de stress. Oui, moi aussi c'est plus, mais après ça dépend des personnes et tout. Mais c'est vrai que quand on oublie son téléphone à la maison le matin, on n'est pas bien. Un autre mal, c'est la ringxiety. Donc ring, la sonnerie en anglais, anxiety, anxiété, anxiety. Donc c'est les sonneries fantômes. Ça, vous êtes tellement habitué à entendre des sonneries, ça vous arrive ça. Des fois vous pensez avoir entendu, vous êtes sûr que vous avez reçu une notification là où votre téléphone a vibré, et en fait non. En fait c'est une hallucination auditive.
Je l'ai déjà, moi aussi, ça
m'arrive régulièrement. Absolument. Mais non, mais c'est vrai, c'est un vrai truc. C'est une hallucination auditive qui est lié au fait que on est toujours sollicité par son téléphone, donc on a l'impression qu'il sonne toujours, tout simplement.
Ah oui, quand même.
Bah oui. Non, je ne suis pas fou, vous savez. Tout
et
va
alors, il y a aussi une addiction au selfie, et ça aussi, c'est une maladie.
La selfite. Ouais, la selfite. Enfin, les Anglais appellent ça self-itis. On peut traduire ça par la selfite. Et effectivement, il y a des chercheurs. Alors, c'est reconnu par l'Association américaine de psychiatrie, par exemple. Et c'est l'addiction au fait, bah voilà, vous mangez un plat de pâte carbo, vous allez le prendre en photo, le mettre sur TikTok, et parce que vous avez la validation sociale du fait de pouvoir poster un selfie, de recevoir des likes, etc.
C'est une maladie,
et
donc, ça.
Bah, c'est une maladie. Est-ce qu'on peut appeler ça une maladie? C'est un trouble, on va dire comme ça, un trouble. Puis vous savez que le selfie, c'est une maladie qui tue aussi. Hein,
Alors, ah bah, sur les falaises.
Oui, sur les falaises.
Ah bah, oui. Plus que les requins.
Absolument. En Inde, l'Inde, c'est le pays numéro 1, parce qu'ils font des photos absolument n'importe où, n'importe quand. On appelle ça les killfies. Voilà, c'est pas les selfies, c'est des killfies. C'est une maladie mortelle aussi. À tel point d'ailleurs qu'il y a certaines compagnies d'assurance maintenant qui proposent des assurances d'essai pour mort par selfie.
Ça pourrait arriver à Perico, parce que regardez, il passe sa vie sur son téléphone.
Il n'a rien écouté.
Demain, Anthony Morel.
Et ben demain, en cette journée compliquée pour les usagers des transports, je vais vous présenter le briseur de grève ultime, le train autonome sur lequel travaille la SNCF. Mais ouais, c'est un vrai truc. Et pour de vrai, hein,
Il arrive à l'heure. Bah, c'est ça surtout.
Bah normalement, c'est fait pour. Et il devrait normalement être testé à partir de cette année.
Oh, incroyable. Ouais. Merci beaucoup Anthony, je vais m'occuper de Marie du coup.
Mais vous avez absolument pas de rire.
Je vais quand même aller vérifier parce que vous m'avez fait peur là.
Mais non.
Merci Anthony Morel, tous les jours midi 50 dans Estelle Midi, puis évidemment en podcast à toute heure du jour et de la nuit, la chronique d'Anthony qui est sur l'application RMC, vos applications de podcast et sur rmc.fr. Dans un instant, on parlera de la Belgique qui envisage de faire payer les excès de vitesse en fonction des revenus. Plus t'es riche, plus tu payes. Bonne ou mauvaise idée? Dites-nous tout au 3216. À tout de suite sur RMC.
RMC, midi 15h.
Estelle Midi.